Et maintenant, nous sommes avec Marie-Ève pour la chronique des apatrides anonymes.
Bonjour. Oui, si vous vous rappelez, à la dernière chronique, Simon, vous avez promis de parler qu'on allait... que les apatrides, on allait vous parler un peu plus de la situation à l'international. Alors, chose promise, chose due. Je vous parle donc aujourd'hui... on va commencer par l'international, puis on va revenir à la fin au Canada. Pour vous parler de trois nouvelles qui sont sorties à peu près les trois en même temps dans trois pays différents, puis qui montrent un peu, qui font un peu un portrait, je dirais, de des différentes mesures que les gouvernements mettent en place en rapport avec l'immigration. Et donc, on va commencer avec la Suisse. Donc, il y a une semaine environ, dimanche de la semaine passée, le gouvernement suisse a tenu un référendum dont le titre est évocateur, donc un référendum pour mettre fin à l'immigration de masse. C'est un référendum, donc, qui a été tenu sur proposition d'un parti de droite qui est l'UDC. Et donc, ça a quand même été une participation assez importante à ce référendum. Ils ont 56% de participation. Et donc, la majorité des Suisses, faible majorité, 50,3%, ont donc voté pour la réintroduction de quotas en immigration avec l'Union européenne. Évidemment, juste peut-être vous mettre en contexte, parce que la Suisse est pas membre de l'Union européenne, évidemment, sauf que elle est liée à l'Union européenne par à peu près une centaine de traités bilatéraux, dont depuis 2002, un traité sur la libre circulation dans l'UE, c'est-à-dire l'espace Schengen. Donc, même si la Suisse n'est pas membre de l'UE, elle a quand même signé le traité de l'espace Schengen. Et donc, en 2002, quand il y a eu cette signature-là, le gouvernement suisse avait dit qu'il n'y aurait pas plus de 8000 nouveaux arrivants par an, à peu près maximum. Sauf que en réalité, 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, c'est 10 fois plus par année. C'est-à-dire que, si on regarde, pour faire un comparatif, la Suisse est un pays de 8 millions d'habitants. La population migrante représente 23% de la population totale. C'est à peu près le deuxième ratio le plus élevé là après le Luxembourg, c'est-à-dire donc 1,9 million de personnes migrantes qui résident en Suisse. Comme je vous disais, évidemment, les résultats de ce référendum n'ont pas fait l'affaire de tout le monde. Les résultats ont suscité de vives réactions en Suisse. C'est un peu, évidemment, de la part du gouvernement en place, qui n'était pas d'accord avec ça, mais comme il y a eu une demande de référendum, ils sont obligés d'aller de l'avant avec ça. Mais notamment du patronat. Qui s'oppose à la réduction du nombre d'immigrants parce que environ 40% des nouvelles entreprises en Suisse seraient créées par des personnes migrantes, des étrangers. Faut dire que si on regarde là les 10 nationalités les plus nombreuses en Suisse, en ordre décroissant, il y a l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, la France, le Kosovo, la Serbie, l'Espagne, la Turquie, la Macédoine et la Grande-Bretagne. Donc, les critiques qui se sont élevées, oui, c'est un peu des critiques diplomatiques, mais c'est surtout des critiques, je dirais, économiques. Par exemple, l'Union européenne s'est vraiment critiqué sévèrement les résultats du référendum. Comme je vous le disais, la Suisse est liée à l'Union européenne par une centaine de traités bilatéraux. Et au lendemain de la sortie des résultats, l'Union européenne menaçait de dénoncer tous les accords bilatéraux qui est liés à la Suisse. Notamment, par exemple, elle a déjà suspendu les négociations à propos d'un accord sur l'électricité, alors que les négociations étaient presque bouclées.
Mais je peux te demander, tu dis que le référendum, c'est pour les quotas en immigration. Quand tu dis des quotas, c'est-tu des quotas par provenance ou c'est l'immigration?
C'est un quota total? Général. Okay. C'est-à-dire que, qu'il n'y ait pas plus que tant de personnes migrantes qui rentrent au pays. Pour l'instant, les modalités de ça là sont pas les modalités sont il y a tu sais il y a rien de précis. Faut savoir que le système en Suisse, un système de démocratie directe entre guillemets là, c'est-à-dire que le gouvernement est obligé de mettre en œuvre des dispositions qui viennent d'une initiative qui a été adoptée par le peuple lors de référendum, même si le gouvernement est pas d'accord. Ça fait que là, normalement, le gouvernement aurait comme 3 ans pour déposer un projet de loi qui donc tiendrait compte là de la volonté de remettre des quotas d'immigration en Suisse. Mais là, le gouvernement a déjà dit là que qu'ils allaient présenter le projet de loi d'ici la fin d'année 2014. Fait que c'est pas sûr, c'est pas, y a pas, pour l'instant, il y a pas de question de provenance, mais faut savoir, la Suisse est quand même limitrophe à plusieurs pays d'Union européenne, mais c'est beaucoup, comme je vous le disais, si on regarde la provenance des personnes migrantes en Suisse, Italie, Allemagne, Portugal, France, c'est beaucoup Italie, Allemagne, Portugal en fait et France, et donc c'est pas des personnes en situation, c'est pas des personnes réfugiées, c'est des travailleurs qui sont dans un pays qui est limitrophe à la Suisse puis qui sont par exemple engagés par des firmes des entreprises suisses et qui traversent la frontière pour aller travailler là, mais qui restent par exemple au bord de la frontière. Donc c'est ça. Évidemment, par contre, les résultats de ce référendum-là, ça représente une victoire pour les partis populistes de droite dans l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne, qui eux ont des politiques très anti-Union européenne. Fait que, ça va être à voir là dans les prochains mois en fait de quoi va avoir l'air ce projet de loi-là, puis aussi quel genre de mesures. Il y a même les producteurs de fromage suisse qui capotent parce que là, ils ont peur que les pays d'Union européenne boycottent les fromages suisses. Là, c'est un peu délirant. Mais à l'opposé complètement, je vous amène aux États-Unis où d'habitude, on pense que les États-Unis sont... on le sait, en fait, c'est pas, disons, the land of the free, c'est pas tout à fait ça. Donc, je vous amène à New York où le nouveau maire Bill de Blasio tend la main aux sans-papiers, en fait, et aux personnes migrantes de New York lors de son discours sur l'état de la ville qui était lundi dernier. Le maire a annoncé qu'il allait délivrer des cartes d'identité aux quelques 500 000 sans-papiers de New York. Il s'agirait en fait d'une carte d'identité municipale qui permettrait aux personnes migrantes de la ville de bénéficier des services publics, d'un logement abordable, d'un compte bancaire. Quand je parle de services publics, c'est tout ce qui est bénéficier de crèches gratuites puis toutes sortes de services sociaux finalement. Gratuit, au même titre que les autres résidents résidentes de New York. Et vous remarquerez que j'ai dit que c'est une carte d'identité municipale qui s'adresse aux personnes migrantes, donc pas seulement aux sans-papiers, parce qu'il y aurait la volonté, en fait, de ne pas... il faudrait pas que la mesure serve à identifier et à dénoncer les sans-papiers plutôt que à les protéger. Donc, ça s'adresserait vraiment à toutes les personnes migrantes, qu'elles soient en situation irrégulière ou pas. Mais on peut se demander un peu d'où ça sort, cette mesure assez progressiste là. En fait, on peut douter de la sincérité peut-être aussi de cette mesure-là. C'est que de Blasio, il a été élu en novembre dernier, en début novembre dernier, et est entré en fonction là, très récemment, en janvier. Si on regarde la proportion du vote je vais m'exprimer mieux que ça, 85% des personnes qui ont voté en sa faveur sont d'origine latino-américaine. Donc, ça pourrait avoir l'air effectivement d'une mesure électoraliste, mais reste que c'est une mesure qui arrive alors que le gouvernement fédéral des États-Unis refuse toujours de régulariser les 11 millions de sans-papiers résidents sur le territoire américain. C'est qu'à voir également, lui, il dit, de Blasio a affirmé là, qu'il voudrait mettre ça en place dans les prochaines semaines. C'est qu'on va vous tenir au courant de ce dossier-là et voir si ça s'applique et comment ça sera appliqué.
Oui, puis c'est quand même à comparer avec la situation de Montréal, justement, ça n'existe pas en tout.
Non, non, pas du tout. D'ailleurs, on revient au Canada où, pendant ce temps-là, on a eu encore une fois, on a eu le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Chris Alexander, pardon, qui nous a annoncé une Xème réforme de la loi sur la citoyenneté et l'immigration, qui vise principalement, évidemment, à rendre l'accès plus difficile en resserrant les critères d'admissibilité. Ce projet de loi du ministre Ken, je l'appelle Ken parce que je trouve qu'il a l'air de Ken, Ken et Barbie, le projet de loi C-24 propose en fait de faire passer la période de présence obligatoire en sol canadien à 4 années sur 6. Actuellement, c'est de 3 sur 4. Les demandeurs devront aussi prouver leur présence, documents à l'appui. Et également, pour ceux qui, ouvrez les guillemets, abusent du système d'immigration canadien, les amendes peuvent atteindre, pourront atteindre de 100 000 $ ou 50 prisons. Et également, évidemment, avec les conservateurs, on peut pas passer à côté de la paranoïa sécuritaire. Et donc, dans ce projet de loi, il y a également de nouvelles mesures qui facilitent les procédures de révocation de la citoyenneté pour les personnes qui détiennent une double citoyenneté et qui auraient été reconnues coupables à l'étranger de, ouvrez les guillemets, terrorisme, de trahison, d'espionnage ou d'avoir servi en tant que membre d'une force armée ou d'un groupe organisé engagé dans un conflit armé contre le Canada. Alors, toujours aussi flou, toujours aussi ratissé plus large, et évidemment, ça revient encore une fois au principe de double peine. Et pour les résidents permanents qui auraient été reconnus coupables de tels actes, c'est l'interdiction de demander la citoyenneté. Donc, comme tu le disais, Karine, on est vraiment loin du semblant d'ouverture, en tout cas, qui semble y avoir à New York. Trois pays, trois approches différentes, mais à l'image de New York, quand même, à Montréal, est-ce qu'on pourrait finalement pouvoir penser et aller vers une ville sans frontières? Ce serait à voir c'est la question que je me pose.
Effectivement. Alors, c'est une très bonne question. Et est-ce qu'on va en parler à la prochaine chronique des apatrides anonymes?
Peut-être bien, avec Mathieu qui sera des vôtres à la prochaine chronique.
Donc, dans 2 semaines. Et ceci termine notre émission hebdomadaire de nouvelles francophones en profondeur.